Et cette semaine, avec notre géopolitologue maison Daniel Habert, on évoque la focalisation occidentale sur la situation à Gaza, alors que la guerre d'usure menée par l'Iran continue. Voici donc l'analyse de Daniel Habert au micro de Blaise van der Linden.
Bonjour Daniel Habert.
Bonjour Blaise et bonjour chers auditeurs.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Comme chaque lundi matin, nous conversons autour de la géopolitique mondiale. Aujourd'hui, nous allons parler de l'erreur d'optique de l'Occident sur la situation au Proche-Orient. On rappelle quelques éléments des dernières semaines. On a eu l'assassinat des 6 otages et les démonstrations qui en ont suivi en Israël. On a Joe Biden qui a déclaré qu'une proposition sera faite et qu'elle sera « take it or leave it », comme il le dit, à prendre ou à laisser. On a Yoav Gallant et Benny Gantz qui eux disent que sortir du corridor de Philadelphie c'est possible, contrairement à Benjamin Netanyahu. Et puis enfin, on a la pression exercée par les pays occidentaux sur la Cour pénale internationale sur les mandats d'arrêt à l'encontre de Benjamin Netanyahu. Quelle est votre analyse là-dessus, Daniel Haber?
Tout ce que vous venez de citer, qui est important et vrai, concourt à faire de Gaza l'épicentre de notre intérêt, comme si tout l'intérêt était sur Gaza, alors qu'en réalité, ce qui fait souffrir Israël aujourd'hui, c'est plus Gaza, où les opérations militaires sont au minimum. C'est du génie militaire, c'est des commandos, c'est du renseignement. La plupart des troupes israéliennes sont ailleurs qu'à Gaza. Elles mènent une guerre globale contre l'Iran sur plusieurs fronts, 7 fronts, les fronts qu'on connaît bien, et qui est une véritable guerre d'usure, qui a des effets terribles sur l'économie israélienne et sur la société israélienne. Et donc l'erreur d'optique que vous signaliez, c'est de se focaliser sur Gaza alors que c'est la guerre contre l'Iran qui domine.
Alors justement, pourquoi cette focalisation sur Gaza, Daniel Haber?
Mais parce qu'il y a deux choses. D'abord, il y a les otages. C'est un vrai problème. C'est un problème humain épouvantable qui focalise évidemment les émotions. Et puis parce que depuis le 8 octobre, vous avez une campagne médiatique mondiale qui a été relayée par tous les amis des islamistes dans le monde en Occident et qui font croire que Gaza, c'est important, c'est l'épicentre et que Israël y commet des crimes monstrueux. Et donc on se polarise là-dessus et nous on commet l'erreur d'écouter cette guerre de désinformation et de la subir. Alors pourquoi Gaza? À cause des otages. Alors évidemment, on peut comprendre que les amis et la famille des otages leur donnent une priorité, personne ne peut leur reprocher, c'est naturel, mais on voit bien qu'une partie des opposants de Bibi utilise la question des otages pour en fait se dresser dans la rue contre un Premier ministre légitime et au fond proposer une sorte de coup d'État. Hein. Enfin, je mesure mes propos, c'est pas ça, mais on n'en est pas loin. Ce qu'on manque surtout, c'est de comprendre ce qui se passerait si on cédait et qu'on signait un cessez-le-feu aux conditions actuelles du Hamas. Hein. Je rappelle que le Hamas veut d'une part la libération d'une grande quantité de prisonniers, c'est-à-dire de futurs Sinoirs. On n'arrive pas à attraper Sinoirs et on va en créer 10 ou 100. Mais surtout qu'ils veulent que Tsahal quitte complètement Gaza, y compris la frontière avec l'Égypte, le fameux couloir de Philadelphie. Et si on voit pourquoi le Hamas insiste tant sur la libération de ce couloir, c'est parce que c'est vital pour eux. Le projet du Hamas, c'est clair, hein, c'est pas d'obtenir une victoire sur Israël, c'est d'obtenir un triomphe. Et si demain on signait un cessez-le-feu, ce serait un véritable triomphe pour le Hamas. Imaginez une minute qu'on signe un cessez-le-feu. Il y aurait évidemment une grande joie pour la libération d'otages. Mais on connaît bien la façon de procéder du Hamas et on sait qu'on n'aura pas tous les otages. Une grande partie des centaines d'otages est déjà mort, d'autres seront tués bien avant. Et puis surtout, certains seront cachés, le Hamas prétendant qu'il ne les a pas. Et donc on se contentera d'en récupérer 10, 20, 30 contre à un prix exorbitant. Et dès qu'on aura libéré la frontière de Philadelphie, vous aurez deux phénomènes. Un phénomène de réarmement immédiat, d'ailleurs qui est déjà en cours. On apprend par exemple qu'au nord, où le Hamas a été vraiment, c'était la première bataille de Tsahal, a été vaincu, vous avez déjà la reconstitution de plusieurs bataillons. Il y a 3000 gens du Hamas qui sont actifs et qui ne sont pas des gens existants avant la guerre, qui sont venus du sud vers le nord, mais qui ont été recrutés sur place parmi les jeunes qui restaient. C'est très facile pour le Hamas de recruter. Mais le grand problème, s'il y avait déjà une ouverture sur l'Égypte, ça serait que Sinwar et certains otages pourrait quitter Gaza et on se retrouverait avec des otages qui seraient aux mains du Hamas en Judée-Samarie ou même en Iran ou dans les mains du Hezbollah. Vous auriez plusieurs alliés de l'Iran qui auraient des otages, un, deux ou trois, et on se rappelle de Gilad Shalit. Avec un otage, vous pouvez avoir une pression terrible. Donc on voit bien que ce sera un leurre et que ce sera une catastrophe. Et puis surtout, vous aurez l'expression du triomphe ça sera un triomphe dans les rues de Gaza, ça sera un triomphe dans les rues de Judée-Samarie, ça sera un triomphe au Hezbollah, ça sera un triomphe dans tout le monde musulman. Le Hamas a tenu tête à la plus grande armée du Moyen-Orient et Israël aura perdu son image et sa crédibilité.
Alors, vous l'avez évoqué dans votre première réponse, Daniel Haber. On va sortir de Gaza et on va parler en général de cette fameuse guerre d'usure iranienne.
Mais écoutez, il suffit de regarder où sont les troupes israéliennes. Elles sont au nord, elles sont en Judée-Samarie aujourd'hui. Elles sont mobilisées parce que l'Iran a appuyé sur tous les boutons à la fois. Les outils, les milices, le Hezbollah, et que tous ces fronts mènent une guerre à bas bruit, font très attention de ne pas aller au-delà d'un certain niveau pour pas entraîner des escalades, et ils obtiennent d'ailleurs l'appui des Américains qui retiennent les Israéliens, et donc vous avez ce qu'on appelle une guerre d'usure, une guerre d'attrition, et les conséquences, on les voit aujourd'hui. Vous avez une conséquence dramatique sur l'économie. Bientôt un an de guerre, hein. Donc aucune économie au monde ne peut supporter un an de guerre, sauf les Russes, parce qu'ils ont d'énormes ressources, matières premières, et puis parce qu'ils se moquent du niveau de vie de leurs habitants, mais pas Israël. Donc vous avez une catastrophe économique qui se profile. Toutes les agences de notation ont dégradé la note d'Israël. Vous avez une faible croissance, vous avez un déficit budgétaire dû à la guerre qui est énorme. Vous avez tous les investissements en Israël qui attendent, qui sont retardés. Donc vous avez une crise économique qui se pointe et vous avez une crise de la société, une société qui est divisée comme jamais, qui est le principal ennemi d'Israël aujourd'hui. C'est l'ennemi intérieur, c'est la division du peuple juif. Et donc cette guerre d'usure, il faut absolument qu'Israël en sorte le plus vite possible, parce que sinon c'est une catastrophe durable. Il faut dire aussi que cette perte de crédibilité israélienne, qui risque d'être aggravée si on signait un cessez-le-feu mal négocié, handicaperait tout l'avenir, parce que il y a beaucoup de pays qui regardent Israël, et en particulier les futurs alliés arabes d'Israël, et en particulier l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite ne fera pas un deal avec les États-Unis et avec Israël si ces deux pays ne montrent pas une force de caractère et une force militaire suffisante. Or, c'est le cas. On voit bien qu'il y a des hésitations à l'intérieur d'Israël et aux États-Unis pour cause de campagne et aussi parce qu'il y a d'autres priorités. Et donc, face à un camp chiite extrêmement fort, organisé depuis 30 ou 40 ans, vous avez la difficulté à monter un axe sunnite face à cet axe chiite, parce que Israël n'est pas en ordre de bataille et parce que les Américains ne sont pas prêts à donner toutes les garanties de sécurité nécessaires. Donc, on est dans une guerre menée par l'Iran et que l'Iran est en train de gagner. Et j'ajoute pour conclure, si c'est temps de conclure, que derrière ce grand écran de fumée, l'Iran continue à progresser dans l'acquisition de la bombe nucléaire.
Daniel Haber, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Judaïka et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles conversations.
À la semaine prochaine.